Le journal Antoine Marette. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La disparition d'Alain Rey la nuit dernière à 92 ans, il était une figure tutélaire du Robert.
La France suspendue aux lèvres d'Emmanuel Macron dans votre journal également. Le chef de l'État va annoncer ce soir les mesures pour barrer la route au Covid-19. L'épidémie continue sa progression malgré l'instauration du couvre-feu. L'invité de votre journal aujourd'hui sera l'économiste Éric Heyer. Vous évoquerez les conséquences économiques de la crise sanitaire.
Le débat existe également en Angleterre qui se déchire entre le Nord et le Sud, entre les tenants du maintien de l'activité économique et les partisans d'un confinement général. Et cela crée, nous l'entendrons, de vives tensions.
L'Angleterre, vers laquelle des migrants se pressent au péril de leur vie. 4 personnes sont mortes hier au large de Dunkerque dans le naufrage de leur bateau. Parmi elles, 2 enfants de 5 à 8 ans. Elles tentaient de traverser la Manche à bord d'un bateau de type pêche-promenade.
Quand François Hollande accuse une partie de la gauche au sujet de la laïcité, l'ancien chef de l'État était ce matin l'invité de nos confrères de France Info et il a montré du doigt la complaisance de certains membres de la France Insoumise à l'égard de l'islamisme. Midi 55, seconde partie de la grande table avec vous Olivia.
C'est un nouveau capitalisme qui a vu le jour il y a une vingtaine d'années du côté de la Silicon Valley. Elle l'a nommé et théorisé le capitalisme de surveillance. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il va falloir regarder du côté des GAFAM et de ce qu'ils font avec nos données, mais pas simplement nos données, aussi chaque trace que nous laissons, nos empreintes, nos mouvements, ils sont compilés puis monétisés. Nous parlerons de tout cela avec la sociologue américaine Shoshana Zuboff à partir de 12h55.
On vous retrouve dans 23 minutes. La disparition du linguiste le plus célèbre de France, Alain Rey, est décédé la nuit dernière à 92 ans. Il était une figure tutélaire du Robert et une voix connue des auditeurs de France Inter. Chez nous, sur France Culture, Laure Adler lui avait consacré une émission en 2014 dans Hors-Champ. Il avait expliqué son entrée au Robert. Tout a commencé en fait par une petite annonce.
L'annonce annonçait des travaux paralittéraires. Je me demandais ce que ça pouvait bien être. C'était littéraire qui m'attirait et pas du tout para, parce que j'avais pas envie d'être parachutiste. Disons que l'idée qu'il y avait quelque chose autour de la littérature dont je savais pas trop la nature me paraissait séduisant. Et quand j'ai su que c'était un dictionnaire et que j'ai vu le premier fascicule du dictionnaire de Paul Robert, j'étais absolument incapable de juger s'il était bien ou mal fait. Mais en tous les cas, ce que je voyais, c'était mes amours disposés par ordre alphabétique, parce qu'il y avait du Proust, il y avait du Giraudoux, il y avait du Gide, tous auteurs que je pratiquais avec frénésie à l'adolescence.
Alain Rey, dans l'émission Hors Champ de Laure Adler, Maxime Tellier, vous retracez pour nous le parcours d'Alain Rey.
Oui, alors on ne présente pas Alain Rey, ainsi que paradoxalement on le présentait avant les nombreuses conférences, interviews télé et radio qu'il a données. Visage et voix familières sur France Inter, Europe 1, France 2, on reconnaissait tout de suite sa faconde, son look désuet, barbichette, moustache et rouflaquette, cheveux blancs également, sa veste en velours aussi, né en 1928 à Pont-du-Château dans l'Allier, il décroche le bac à 14 ans et répond à cette fameuse petite annonce du Robert en 52. La première édition sort un an plus tard avec des dizaines de mots qui n'étaient pas dans le Larousse ou dans le Littré. Et c'est ce qui définit Alain Rey, finalement, son amour des mots et de la langue vivante qui évolue et s'enrichit des mots d'ailleurs sans s'appauvrir. Il ne refusait pas les anglicismes, mais admirait la créativité du Québécois, par exemple. Comme rédacteur en chef des dictionnaires Le Robert, il a créé la version non propre, le Grand Robert, le Petit Robert, le dictionnaire culturel. Et pour lui, comprendre des mots revenait à comprendre une époque, une manière de penser, faire de l'histoire en somme. Son parcours était aussi une opposition à ses origines catholiques, un père d'extrême droite qu'il destinait à une carrière scientifique. Alain Rey s'affichait à gauche et lui, il a choisi les lettres et les mots.
Merci à vous Maxime Tellier. Que va annoncer le chef de l'État ce soir ? C'est la question du jour. Réponse donc à 20h. Emmanuel Macron va une nouvelle fois prendre la parole pour annoncer des mesures plus restrictives. Car le couvre-feu actuel n'a pas porté ses fruits, le nombre de contaminations Covid-19 continue sa progression. Alors que faire ? Reconfiner un peu, beaucoup, étendre le couvre-feu ? Chaque politique a son avis sur la question, à commencer par François Bayrou. Il était ce matin l'invité de nos confrères de France Inter.
Moi, je ne me prononce pas pour un reconfinement généralisé. Je pense qu'il faut prendre des mesures de précaution, mais si on peut éviter de paralyser complètement le pays comme on l'a fait au printemps, avec les conséquences que nous avons vécues. Alors c'est mieux de garder des éléments de vie qui nous permettent de rester le plus près possible d'une vie normale, ou en tout cas d'une vie active.
Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Rappelons que François Bayrou fait partie de la majorité, qu'il est haut-commissaire au plan. Alors comment interpréter cette prise de position du haut-commissaire au plan? Dès lors, comment interpréter justement cette prise de position à quelques heures de l'intervention du chef de l'État?
Eh bien, on peut imaginer que ça signifie que la question en suspens désormais ne semble plus être de savoir s'il y aura ou non un reconfinement, mais de déterminer de quelle manière nous allons être reconfinés. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti des réunions organisées hier soir au ministère de la Santé avec les principaux responsables politiques du pays et les partenaires sociaux. Rien ne leur a été explicitement présenté, aucune des pistes sur lesquelles travaille Emmanuel Macron, mais tous ont bien compris à l'exposé de la gravité de la situation, à savoir que les hôpitaux seront, quoi qu'il arrive, saturés par l'afflux de malades du Covid d'ici 15 jours. Tous ont bien compris que l'hypothèse d'une extension du couvre-feu n'est désormais plus une option pour le chef de l'État, mais qu'on se dirige bel et bien vers un reconfinement de la population. L'accélération de l'agenda présidentiel avec la tenue de deux conseils de défense en 24 heures, suivi du conseil des ministres et d'une prise de parole annoncée à 20h ce soir, est un autre signe que l'heure n'est plus aux demi-mesures. Reste donc à déterminer de quelle nature sera ce reconfinement, partiel, national, territorialisé, avec des aménagements pour maintenir les écoles ouvertes et un minimum d'activité. Ce sont toutes ces questions qui ont été évoquées et tranchées sans doute ce matin au cours du conseil de défense qui se tenait à l'Élysée. François Bayrou, on vient de l'entendre, dit souhaiter que ce confinement ne soit pas généralisé comme au printemps dernier. Au gouvernement, comme dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on affirme être bien conscient qu'il faut éviter à tout prix de paralyser le pays, car de nombreuses entreprises ont été fragilisées et qu'il pourrait y avoir des conséquences difficilement maîtrisables en termes de faillite, de basculement de nombreuses personnes dans la précarité. Ce qui est tout de même un peu inquiétant à quelques heures des nouvelles annonces du président, c'est qu'on a le sentiment que la gestion de l'épidémie échappe quelque peu à l'exécutif, qu'Emmanuel Macron et ses ministres ont en permanence un ou deux trains de retard sur le virus, comme l'affirmait en début de semaine le président de la région Grand Est, Jean Rottner. Espérons dès lors que le nouveau train de mesures attendu ce soir remette les pendules à l'heure et permette de rattraper le retard.
Merci à vous Stéphane Robert. Alors va-t-on assister comme en mars dernier à des mouvements de panique de consommateurs? Certains s'étaient rués dans les supermarchés pour acheter des produits de première nécessité. Les files d'attente s'allongeaient pendant que le rayon se vidait. Cette fois-ci, le secteur de l'agroalimentaire prend les devants. Il cherche à s'organiser pour faire face à une possible forte augmentation de la demande, Sarah Mansoura.
Pour l'heure, pas de forte augmentation des stocks chez les distributeurs, mais ils font savoir qu'ils se préparent à tous les scénarios envisagés par le gouvernement. L'expérience du mois de mars les a rodés, nous explique-t-on à la Fédération du commerce et de la distribution. La chaîne a tenu et elle tiendra en novembre, assure le porte-parole d'un distributeur. Aucune rupture à craindre, les volumes sont mieux adaptés, explique un autre. Tous veulent rassurer, aucune agitation, aucun affolement dans le secteur, tient-on à souligner. Les supermarchés s'y préparent depuis plusieurs jours et accorderont ces prochaines semaines une attention particulière à l'approvisionnement de certains produits que le comportement des consommateurs a pu contribuer au printemps à mettre sous tension. C'est le cas des pâtes, du riz ou de la farine. Autre exemple, les œufs. Pas de hausse massive dans les commandes reçues par les industriels, mais certains commerciaux notent davantage de monde dans les magasins. Elle pourrait donc être un peu plus importante en fin de semaine. Mais pour l'heure, on n'observe pas d'effet de stock comme au mois de mars. Le bas blesse, en revanche, chez les fournisseurs des cafés et des restaurants. Certaines entreprises, fragilisées par la crise du printemps, craignent de ne pas se relever d'un durcissement des restrictions sanitaires.
Invité de ce journal pour parler de l'impact économique d'un nouveau tour de vis, Éric Heyer. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. La croissance va baisser au quatrième trimestre. Bruno Le Maire l'a annoncé lundi, alors qu'il y a 15 jours encore, les prévisions de l'INSEE laissaient espérer une stabilité. Pour l'an prochain, le gouvernement tablait sur une croissance de 8%. Alors, cette prévision, elle paraît complètement obsolète désormais.
Oui, c'est un peu normal qu'elle soit obsolète, puisqu'elle était avec des conditions sanitaires qui ne se durcissaient pas et on restait peu ou prou au niveau des restrictions sanitaires de à peu près celles de l'été, légèrement plus que celles de l'été. Donc là, effectivement, il va falloir revoir toutes ces prévisions, mais revoir à l'aune des annonces qui vont être faites ce soir. Donc effectivement, si ça devait être juste un confinement sentiment nocturne un peu plus tôt, avec pourquoi pas des week-ends en moins. On voit bien que la prévision aurait été légèrement révisée à la baisse, mais si on repart sur un confinement dur, alors ça veut dire qu'il, la révision sera très très significative.
Et reconfinement total, ce serait un coup de grâce pour l'économie ?
Alors, mais j'aime pas tellement ce mot de coup de grâce, mais oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, l'économie ne s'est pas encore complètement remise de la crise sanitaire du printemps. C'est-à-dire qu'on tourne à peu près toujours moins 5% par rapport à la situation de printemps. Moins 5%, on se rend pas compte, mais vous voyez, pour avoir un ordre d'idée, c'est-à-dire que pendant la crise de 2008, au bout, on a tourné à moins 2,8. Donc, vous voyez, on est aujourd'hui une situation qui est deux fois pire que celle de la crise de 2008. Donc on n'entre pas dans la même situation avec des entreprises qui sont beaucoup plus endettées. Il y a à peu près 160 milliards de dettes supplémentaires aujourd'hui pour les entreprises, avec des destructions d'emplois qui sont aujourd'hui à 800 000. On a détruit 800 000 emplois, donc un taux de chômage qui est beaucoup plus élevé qu'avant la crise. Donc et des finances publiques qui sont déjà bien dégradées. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. Alors, est-ce que c'est un coup de grâce si on devait refaire le même confinement ? Je le dirais pas comme ça. Je dirais que oui, si on devait le faire, alors je comprends ce que dit le président du MEDEF, il y a avoir des défaillances d'entreprises de façon importante et donc des destructions d'emplois. Vous voyez, nous pour l'instant, nous sommes sur un scénario où il y a 80% de défaillances supplémentaires à attendre en 2021 par rapport à une année normale, ce qui représente à peu près 160 000 destructions d'emplois en plus lié à cela. Donc c'est sûr que si on devait durcir, ben là on ferait exploser ce chiffre-là, mais ça ne veut pas dire qu'on repartirait de zéro. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si le président nous annonce des mesures plus dures ce soir, il va peu de temps après, alors lui ou le Premier ministre, annoncer des aides supplémentaires. Et donc il va falloir faire le bilan de à la fois l'état du durcissement, mais aussi la contrepartie en termes d'aide. Le troisième point qui est un peu plus difficile à analyser, c'est est-ce qu'on va accepter d'être reconfiné ? Est-ce que la population va accepter d'être reconfinée ? Et quel va être le comportement en termes finalement respect de ce durcissement ? Donc là, c'est on sort un peu de l'économie, mais il va falloir qu'on le prenne en compte aussi dans nos prévisions.
Alors vous parliez de cibler les aides. Quels sont les secteurs qui vont être les plus fragilisés ?
Bon, ben disons que les secteurs les plus fragilisés, on les connaît, c'est tous les secteurs qui dépendent, enfin qui vont subir ces restrictions de rassemblement et ces restrictions de mobilité. Donc c'est les secteurs de l'hébergement et la restauration, celui des services à la personne, des services de transport qu'ils soient terrestres ou aériens, tout ce qui est récréatif, les créations audiovisuelles, musicales et les matériels de transport. Ça c'est les six gros secteurs qui vont être durablement impacté, hein. Et vous voyez, en France, ça représente à peu près 10% de l'activité en France. Donc vous allez dire, bon, c'est pas grave, il y a les 90% qui vont continuer à fonctionner. Oui, mais il y a quand même des effets de diffusion et surtout, vous voyez, si on devait fermer les écoles, bah, typiquement, il y aurait une offre de travail qui serait empêchée, c'est-à-dire des personnes qui ne pourraient plus aller travailler, soit parce que elles sont confinées, si on fait un confinement total, soit parce qu'il faut qu'elles gardent leurs enfants qui peuvent pas aller à l'école. Et ça, c'est tous les secteurs qui seraient impactés, parce que le télétravail, certes, peut un tout petit peu atténuer cet effet-là, mais il y a qu'un tiers des salariés qui peuvent télétravailler actuellement. Et donc, ça veut dire que la diffusion serait un peu plus large que les seuls six secteurs que je vous ai précités.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Éric Heyer, d'avoir accepté notre invitation dans le journal de France Culture de midi et demi. L'Angleterre se déchire entre nord et sud alors que le nombre de morts de Covid-19 dépasse les 45 000 dans tout le royaume. Le pays se divise entre tenants du maintien de l'activité économique et partisans d'un confinement général. Les restrictions sont différentes selon les taux d'infection et ces différences créent des tensions. À Londres, les explications de Richard Place.
C'est le maire travailliste de Manchester qui incarne cette fronde. Confronté à des restrictions drastiques, fermeture de nombreux commerces en particulier, il a négocié pendant 10 jours pour obtenir des fonds de la part du gouvernement afin de soutenir les entreprises et les personnes les plus en difficulté. Lassé, Boris Johnson a fini par imposer ces mesures sans débloquer l'argent demandé. Depuis, cette contestation s'est propagée jusque dans son propre camp. Plus de 50 députés conservateurs ont adressé un courrier au 10 Downing Street. Ils demandent en substance un plan de relance pour le nord du pays, des zones défavorisées de l'Angleterre avec un taux de chômage élevé, mais c'est aussi là que le virus se propage le plus rapidement. La Cumbria, le Yorkshire, le comté de Durham, ces régions du nord constituent ce que l'on appelait le mur rouge des fiefs travaillistes. Un mur qui s'est effrité lors du référendum sur le Brexit il y a 4 ans et littéralement effondré pendant les législatives de l'année dernière, offrant une écrasante majorité au camp de Boris Johnson. Alors l'opposition voit dans la colère actuelle l'occasion de regagner de la confiance et des voix et joue cette carte de l'opposition du nord, modeste, méritant, malmenée par un sud snob, prétentieux et injuste.
Le Qatar s'excuse et regrette après avoir obligé des passagères de plusieurs vols au départ de Doha à subir des frottis. L'affaire révélée par un média australien date du 2 octobre. Un bébé abandonné avait été découvert dans l'aéroport international de Doha. Pour retrouver la mère, les employés de l'aéroport ont forcé des femmes à descendre de plusieurs avions prêts à décoller. Elles ont ensuite subi des examens gynécologiques pour déterminer si elles avaient accouché récemment. Bonjour Yoram Melloul.
Bonjour.
L'affaire a créé des tensions diplomatiques, notamment avec l'Australie, d'où viennent la majorité des victimes. Et maintenant, le Qatar fait le dos rond.
Le gouvernement qatari tente même de se justifier. Si les employés de l'aéroport ont obligé des femmes à descendre d'un avion, s'ils les ont emmenées de force dans une ambulance et déshabillées, s'ils leur ont fait subir un examen gynécologique, c'est d'abord pour retrouver la mère, mais aussi les auteurs de ce que le gouvernement qualifie de tentative de meurtre. C'est son argumentaire. Les autorités assurent qu'un nouveau-né a été abandonné dans l'aéroport, couvert d'un sac plastique caché derrière une poubelle. 18 femmes ont été victimes de ces violences, passagères de plusieurs vols différents, parmi elles 13 australiennes et une française. Le gouvernement australien a mis presque un mois à réagir publiquement. Une fois l'affaire révélée dans la presse, la tension est montée d'un cran entre l'Australie et le Qatar. Côté Qatar, pas un mot sur la situation des femmes dans le pays, où les accouchements hors mariage sont punis de peines de prison. La monarchie conservatrice essaye maintenant de sauver la face et se dit désolée. Elle, si souvent critiquée pour son non-respect des droits humains, un an et demi avant la réception du Mondial de football 2022. Le Premier ministre du Qatar, Khaled Ben Khalifa Al Thani, vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête. Il la veut transparente. Il le promet. Les résultats seront partagés avec les pays concernés.
Merci à vous, Yoram Melloul. Retour à l'actualité française avec un nouveau drame lié à la migration. 4 personnes sont mortes hier au large de Dunkerque dans le naufrage de leur bateau. Parmi elles, 2 enfants de 5 et 8 ans. Elles tentaient, ces personnes, de traverser la Manche à bord d'un bateau de type pêche-promenade. On dénombre également 14 blessés, dont un dans un état grave, et 8 en état d'hypothermie. Ils ont été pris en charge dans les hôpitaux de Calais et de Dunkerque. Bonjour Lina Tagui.
Bonjour.
Que sait-on des circonstances de ce nouveau drame?
Alors, ce que l'on sait, c'est que l'embarcation transportait 19 personnes, des hommes, des femmes et de très jeunes enfants. Hier matin, les secours sont intervenus au large de Dunkerque après le signalement d'un bateau de pêche qui chavirait. Le corps d'un homme a été retrouvé et 3 autres personnes ont succombé à un arrêt respiratoire malgré les tentatives de réanimation des secours. Néanmoins, il y a 14 rescapés, tous de nationalité iranienne, dont le pronostic vital n'est pas engagé. Selon les premiers témoignages, un nourrisson serait porté disparu. Les recherches sont toujours en cours. Alors que s'est-il passé? La petite embarcation n'aurait pas résisté aux très mauvaises conditions météo d'hier. Une enquête a été ouverte et confiée à la police des frontières pour homicides et blessures involontaires. Ce bilan qui est très lourd porte à 7 le nombre de migrants qui sont morts au cours d'une traversée de la Manche depuis le début de l'année. Rappelons qu'entre la côte française et les falaises anglaises de Douvres, il y a seulement une 30aine de kilomètres et pourtant cette voie maritime est l'une des plus fréquentées et des plus dangereuses au monde. Malgré cela, selon la préfecture maritime de la Manche, les tentatives de traversée se multiplient ces dernières années. Entre le 1er janvier et le 31 août 2020, 6200 migrants auraient tenté leur chance que ce soit sur un bateau pneumatique, un paddle, un kayak ou encore une simple bouée. Des migrants qui sont prêts à tout pour quitter des conditions d'accueil très éprouvantes en France et pour rejoindre l'Angleterre.
Merci à vous, Lina Taghi. Quand François Hollande accuse une partie de la gauche au sujet de la laïcité, l'ancien chef de l'État était ce matin l'invité de nos confrères de France Info et il a dénoncé, je cite, « les dérives d'une partie de la gauche qui considère que la laïcité n'a plus cours pour une religion, en l'occurrence il évoque l'islam ». Et il montre du doigt la complaisance de certains membres de la France Insoumise à l'égard de l'islamisme. Bonjour Pierre Neveu.
Bonjour Antoine.
C'est la première fois que François Hollande tient des propos aussi tranchés sur cette question de la laïcité et de l'islam.
Et après Emmanuel Valls et Bernard Cazeneuve, l'ancien président socialiste, François Hollande fait aujourd'hui son examen de conscience et tente de répondre aux accusations de complaisance de la gauche avec l'islam politique, accusation née tout d'abord de l'affaire des foulards de Creil en 1989, puis plus récemment de fréquentation avec des associations et personnalités musulmanes. Aujourd'hui, François Hollande s'interroge, n'y a-t-il pas eu une forme de tolérance avec cet islam politique ? Sa réponse est catégorique. Pas avec la gauche qu'il représente, c'est-à-dire la gauche socialiste qui défend la laïcité, la neutralité par rapport aux religions. Et François Hollande de dénoncer, comme ses anciens premiers ministres, la gauche qui s'est laissée influencer par des revendications communautaires.
Une partie de la gauche, et je vais la nommer, a eu à ce moment-là une forme de dérive en considérant que la laïcité n'avait plus cours pour une religion et qu'elle devait s'appliquer pour d'autres. Eh bien non, on a eu une tolérance de cette part de la gauche à l'égard de l'islam. Plus récemment, il y a une partie de la gauche, des insoumis, parlons très clairement, qui ont voulu manifester avec des organisations qui sont islamistes. Là, il y avait une faute qui mérite d'être relevée.
On le voit, cette question de la laïcité divise la gauche, mais elle donne aujourd'hui aux socialistes une occasion de nommer les choses et d'isoler les insoumis à l'approche de la présidentielle. L'islamo-gauchisme est désigné comme cible, mais l'attaque vient cette fois de l'ancien président qui essaye d'exister dans le débat public sur le thème de la laïcité, un véritable marqueur de gauche.
Merci à vous Pierre Neveu. L'association Baraka City peut être bientôt dissoute. C'est une proposition que le ministre de l'Intérieur formule ce matin au Conseil des ministres. Gérald Darmanin l'a annoncé hier sur France Inter. Au-delà des activités caritatives de l'ONG humanitaire musulmane, c'est la personnalité sulfureuse de son fondateur, Idriss Siamedi, qui est dans le viseur des autorités. De son vrai nom, Driss Yemou, il est soupçonné de cyberharcèlement et il est actuellement sous contrôle judiciaire après les plaintes de l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui, et la chroniqueuse de RMC, Zora Bitan. Son portrait avec Thibault Lefebvre.
Depuis la rentrée, Idriss Siamedi a durci le ton avec le procès Charlie Hebdo et le projet de loi sur le séparatisme. Le fondateur de Baraka City s'est largement exprimé sur les réseaux sociaux. Le 27 août, il affirme notamment sur Twitter que l'idée de mourir en martyr est la plus belle chose pour un croyant. Une semaine plus tard, dans un message toujours en ligne sur sa page Facebook personnelle, Idriss Siamedi s'en prend directement aux victimes de l'attaque du 7 janvier 2015 et demande à son Dieu Allah qu'il maudisse Charlie et enflamme leur tombe à la chaleur du soleil. Des prises de position claires qui tranchent avec l'ambiguïté de son discours jusque-là. Exemple, le 24 janvier 2016, Idriss Siamedi est l'invité de l'émission de Canal+, Supplément.
Vous condamnez alors l'État islamique ?
S'il tire sur des femmes enceintes, je ne vais pas vous dire non, je ne condamne pas. Donc je pense que oui, mais si, je suis gêné de la question parce que je pense que c'est pas équitable. On n'a pas demandé au président
du... On est un peu gêné de la réponse, pour tout vous dire.
Un an plus tard, lors d'une perquisition, la police retrouve dans l'ordinateur d'Idriss Siamedi des chants religieux de l'État islamique et un exemplaire de Dar al-Islam, la revue officielle de l'organisation. En mars 2019, l'enquête pour financement du terrorisme et association de malfaiteurs terroristes visant Baraka City est classée sans suite.
Cet après-midi, temps maussade sur la majeure partie du pays, des éclaircies à l'est qui se transformeront en soleil à mesure que l'on ira vers le sud. Températures conformes aux normales saisonnières, 13 à Brest, 14 à Paris, 19 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Julien Loquet. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Sophie Delpont.